Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet.
Bonjour. Voilà, alors, une annonce concernant le cours, c'est que je vais partir pour 3 semaines. Donc, le cours reprendra le jeudi 6 mars. Et à partir de là, il y aura 3 cours. Voilà. Cette année, il n'y aura pas de séminaire, mais le séminaire est remplacé par un colloque sur les nouveautés sur l'archéologie sogdienne que j'organise au Collège de France les 2 et 3 juillet. Alors, on avait donc... Est-ce que... Oui, ça va, c'est bon. On avait examiné le cycle de Rostam, hein, avec les différents épisodes héroïques qu'on avait essayé de dénombrer. Voilà, ça se termine un peu en queue de poisson, parce qu'il y a donc le dernier exploit qui est la mort du démon blanc. Et puis ensuite, voilà, les cavaliers continuent, et après, il y a ce mystérieuse... cette mystérieuse insertion, hein, du vase, de la fleur, et qui pourrait faire allusion à un épisode plus tardif du Livre des Rois. Mais apparemment, alors, il y a le Simorgue, le protecteur de Rostam et de sa famille, au-dessus de sa montagne, et les exploits continuent, mais là, c'est détruit. Alors... je vous montre une curiosité, c'est comment aujourd'hui c'est représenté en Iran. Voilà, alors je vous avais déjà montré des photos de récitateurs, de psalmodieurs du Livre des Rois devant des tableaux, hein, des tableaux qu'on change. Alors, les grands succès populaires, c'était le Livre des Rois, et puis sinon, c'est le martyr de l'imam Hossein. Hein. C'est récité dans les villages, psalmodié, ça peut donner une idée de la manière dont le Livre des Rois était présenté autrefois en Sogdiane. Alors là, ça, c'est une peinture qui, en fait, est d'un style assez proche des tableaux que les récitateurs accrochent derrière eux. Là, c'est une peinture Qadjar. Alors, vous pouvez vous amuser à reconnaître les exploits parce qu'ils sont représentés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici... on a donc le premier, c'est les exploits tels qu'ils sont dans le Livre des Rois, donc ils ne correspondent pas exactement à ceux qu'on a à Penjikent. Alors voilà, le premier, c'est Rostam attaqué par un lion, et son cheval à Rarch. Alors ça n'est plus fidèle à l'étymologie, puisque Rarch n'est plus un cheval bai, mais est devenu un cheval blanc. Hein. C'est Rarch, en fait, qui mène le combat. Rostam, il aime bien faire la sieste. Hein, ça lui arrive assez souvent. Et dans ces cas-là, c'est Rarch qui sauve la situation. Alors ici, c'est la traversée du désert. Il doit avoir chaud avec ses grosses bottes et son équipement. Hein, Rarch qui tire la langue. Bon, ces deux épisodes-là ne sont pas représentés donc à Penjikent. Mais ce qui est représenté, c'est donc le combat contre le dragon. Hein. Alors on voit qu'ici, Rarch, comme c'est d'ailleurs dit dans le poème, mord le dragon. Hein. Voilà, et ce qui était aussi représenté à Penjikent, Rostam l'achève. Ensuite, c'est la capture d'Avlod, qui est donc un chevalier du camp du Mazenderan. Alors, ouais, c'est quand même assez réaliste, parce que vous voyez ici, c'est l'Elbourz, hein, c'est le mont d'Amovend, qui est le sommet. Donc le Mazenderan, en fait, on est au Mazenderan. hein, et l'Iran est de l'autre côté. C'est assez réaliste. Donc Rostam qui attrape Avlod et qui l'attache. Ici, c'est la scène de la séduction par la sorcière. Hein, qui va, alors, il partage un petit pique-nique là, et puis au moment donc où Rostam lui porte un toast en invoquant le nom de Dieu, elle est démasquée et elle révèle sa véritable nature. Je crois que c'est le combat, hein, ça doit être en fait le combat contre le démon Arjang, voilà, qui dans Apenji Kent est accompagné de toute une armée de démons qu'on ne voit pas ici. Et ici, ça doit être, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, en fait, ici, je pense qu'il faut, il faut éliminer celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ça doit être le combat contre le démon Arjang. Ici, ça doit être, oui, c'est là qu'il attrape le chevalier Avlod, parce qu'il l'attrape au lasso et il l'attache à un arbre. Puis finalement, il l'intègre dans sa troupe. Donc, vous voyez, il y a certains épisodes qu'on a appelés, et ici, à la fin, ce qui culmine, l'exploit final, c'est la mort du démon blanc, hein, qu'on a aussi donc vers la fin du cycle à Apenji Kent. Voilà, c'est le démon blanc avec une tête de lion. Donc, on a certains des exploits qui sont à Apenji Kent, celui-là, le dragon, celui-là, la sorcière, celui-là, Avlod, Arjang, Avlod et la mort du démon blanc, mais pas tous. Bon. Vous voyez quand même qu'il y a un grand conservatisme dans la représentation de ces exploits. Enfin, on se sent tout de suite en terrain connu. Alors, il faut maintenant aborder une question complémentaire. Jusqu'à très récemment, on a considéré que le cycle des exploits de Rostam, donc au registre inférieur de la grande salle où c'était représenté, et donc qui est remonté aujourd'hui au musée de l'Ermitage, on va revenir, on va peut-être voir l'assemblage tel que ça se présente aujourd'hui. Voilà. On a longtemps, ici, au registre tout à fait inférieur, comme d'habitude dans ces maisons aristocratiques, ce sont des cartouches qui contiennent des histoires qui se suffisent à elles-mêmes et qui sont représentées d'une manière extrêmement synthétique. Ça va être, en fait, ça va donner lieu à la dernière, aux dernières séances de ce cours et on débordera sur l'année prochaine. Et c'est un répertoire complètement différent. Ce sont des histoires qui ont souvent une origine indienne. Alors ici, on a le cycle de Rostam qui commence ici avec la traversée, l'arrivée dans le pays des démons et qui court tout du long ici. Et pendant longtemps, on a considéré que ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que ce qui est au-dessus, donc qui est presque entièrement détruit, avec quand même une partie assez bien conservée, on a considéré que c'était une histoire indépendante, ou peut-être éventuellement... Voilà, dans ce cas-là, on a considéré qu'il n'y avait pas de rapport. Or, en préparant le cours, c'est bien de donner des cours, parce que ça oblige à trouver des choses, je me suis aperçu que, en fait, c'est pas ça. Et en réalité... C'est le début de l'histoire de Rostam. On n'avait pas du tout pensé que ça pouvait être le début. En fait, maintenant, on a d'autres exemples, notamment, un que je vais vous montrer tout à l'heure, le Faramarznamé, où on a, c'est clairement un ordre du haut en bas. Donc, voilà, je me suis demandé si on ne pouvait pas appliquer la même méthode ici. J'ai pris le texte du Livre des Rois et, bingo, je crois que je suis tombé sur le prologue. Voilà ce qu'on voit. Alors, Qu'est-ce qui est dit dans le livre des rois? Qu'est-ce qui se passe avant que Rostam ne soit envoyé rétablir la situation au Mazenderan à combattre les démons? Eh bien, il se passe ceci. Le roi Kaïkabous, qui est quelqu'un de très influençable, alors qu'il se repose dans un jardin, se laisse persuader par un ménestrel qui est du Mazenderan et qui fait l'éloge de son pays, d'aller conquérir le Mazenderan. Ces nobles l'admonestent, lui expliquent que c'est une folie, mais malgré tout, il envoie l'armée, il y va lui-même, il est fait prisonnier. La première bataille est une déconfiture pour les Iraniens, et il est fait prisonnier. Et c'est donc à ce moment-là qu'on appelle Rostam à la rescousse. Bien. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Voilà. On a, ce qui m'a tout de suite frappé, le ménestrel, il est là. Évidemment, un harpiste. Alors, de petite taille, pour indiquer, ça peut indiquer soit qu'il est jeune, soit qu'il a un statut social inférieur par rapport aux nobles. C'est une fille, clairement, avec des longues tresses. Bon, c'est pas gênant parce que dans le texte de Perpé Persan, du poème, le nom pour le ménestrel, c'est Ramishnagar. Ramishnagar, bon, et comme vous, en persan, comme vous savez, c'est pas genré. Hein. Bon, c'est toute l'ambiguïté de la poésie amoureuse persane, c'est que dans la plupart des cas, ça peut s'adresser aussi bien à un jeune garçon qu'à une jeune fille. Et bien entendu, les poètes jouent de cette ambiguïté. Alors ici, donc, ménestrel. Alors, je pense, ce qui a pu peut-être l'attirer vers le genre féminin, c'est que quand on voit dans le poème. Ce qu'elle raconte sur son pays, c'est c'est un pays de cocagne, la chasse, c'est extraordinaire, et les jeunes filles, alors c'est plein de jeunes filles qui ne demandent qu'à donner du plaisir aux nobles. Donc ça a pu tirer la représentation du ménestrel vers le genre féminin. Alors, ici à droite, Marchak l'avait déjà compris, en fait, c'est le roi. Parce que son costume de soie est plus élaboré que celui des autres, avec ce genre de rondelles là, de motifs. C'est vraiment le costume le plus luxueux. Il est dans un jardin. Voilà, on a une fleur derrière. Souvent, ça fonctionne comme ça, la peinture sogdienne. Il y a des signes, c'est des rébus. C'est à nous de comprendre. Il est dans un jardin. Et au-dessus de, on va voir après le groupe de gauche. Au-dessus, ici, se trouve un dragon. Voilà. Juste à la verticale du ménestrel. Alors, vous savez, enfin, on l'a déjà vu, il y a des petites bêtes qui volent devant les visages des héros. C'est pas toujours la même bête, et on pensait avant que c'était le simorgh, l'animal de Rostam. Maintenant, on pense maintenant que c'est le farn, c'est-à-dire le charisme, la protection divine, etc. Que chaque noble a en partage. Mais dans ces cas-là, d'abord, c'est jamais représenté comme un dragon. Parfois, il y a une queue de poisson, mais c'est jamais entièrement un dragon. Et ensuite, quand c'est le farn, il apporte un symbole de grâce. C'est peut-être un anneau, ou un anneau enrubanné, ou simplement un ruban. Ici, rien de tout ça. La solution, à mon avis, elle est évidente. C'est un dragon qui veut dire « attention, danger ». Parce que le ménestrel qui a réussi à embobiner le roi Kaous est en fait un démon déguisé. Et donc c'est une façon d'indiquer sa nature démoniaque. Bien, Alors, maintenant, avec qui est-ce que le roi discute ? On voit trois nobles ici. Et bon, c'est pas très net sur ce dessin. Enfin, c'est pas, bon, ici le détail là. Ils ont l'index levé. Ça veut dire que ils argumentent. Ils sont en train de lui expliquer qu'il fait une bêtise. Alors, souvent on a le symbole iranien de l'index recourbé qui signifie la soumission, le respect. Mais ça, c'est pas ce geste-là. C'est tu vas voir ce qui va t'arriver. Bien. Et alors, il se trouve, quand on prend le texte, c'est incroyable la façon dont les correspondances sont littérales. Quand on prend le texte, celui qui a le plus d'autorité dans le groupe des nobles, c'est Zal, qui est en fait qui est aussi un prince du Seistan. C'est le père de Rostam. C'est le père de Rostam. Et, alors, les photos, c'est les photos que j'ai pu repiquer. Hein. Mais vous voyez, il est de profil, contrairement aux autres, et il a le même profil que Rostam, que j'avais déjà expliqué, c'est-à-dire ce que j'appelle le profil heftalite, copié sur des anciennes monnaies heftalites, avec les sourcils très, très arqués, le nez busqué et un gros menton en galoche. Bon, là, il faudrait redessiner par-dessus, mais regardez. Regardez le profil de Rostam. Voilà. C'est le même. Et c'est normal, c'est son père. Bien. Alors, autre détail dont je ne suis pas complètement certain, mais je trouve ça quand même tentant, il est habillé en jaune. Or, Zal a un surnom. Zal et Zar. Alors, une histoire un peu compliquée. Ça vient d'un mot ancien iranien qui n'était plus courant en Pélévini, en persan, Zarda, le vieux, le vieux. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Zal, le vieux ? Parce que c'est un albinos. Il est né avec les cheveux blancs. Donc, dès sa naissance, on l'a appelé Zal, le vieux. Mais il se trouve que le mot qui veut dire vieux et le mot qui veut dire jaune se confondent pratiquement, et c'est encore plus net en sogdien, c'est pratiquement le même mot. Et donc, on sait qu'en persan, parfois, au lieu de dire Zarlézar, alors les Iraniens de la salle ne me démentiront si je dis une bêtise, au lieu de dire Zarlézar, on dit Zarlézard, c'est-à-dire Zal le jaune. Et ben voilà, c'est lui. Bon. Donc, on a vraiment, à mon avis, il y a absolument aucun doute. Ma seule surprise, c'est que personne s'en soit aperçu avant. Bon. Et on a là donc la suite de la suite des événements. Mais c'est très clairement indiqué. On a là deux cavaliers qui partent vers la gauche. C'est-à-dire, ils sont envoyés faire la guerre au Mazenderan. Donc on voit très bien qu'ici, l'ordre de lecture, c'est de droite à gauche. Alors qu'en bas, c'est de gauche à droite. Ça, c'est pas du tout embêtant. Parce que ça arrive souvent sur ces peintures, ces cycles épiques sogdiens. Ça peut se lire de droite à gauche, ça peut se lire de gauche à droite. Ici, on a un ordre qu'on appelle boustrophédon, c'est-à-dire le sens change quand on change de registre. Ici, c'est droite-gauche, après, c'est gauche-droite. Bien. Ils partent à la guerre. Et c'est une déroute. On voit très bien que le camp qui perd, c'est celui de droite. Là, il y en a un qui est désarçonné et un qui est mort. C'est les Iraniens. Parce que c'est le camp qui vient de là. Bien, voilà. Alors, Marchak s'était persuadé donc d'abord que ça n'avait pas de rapport avec ce qui était dessous, et qu'ensuite ça se lisait de droite à gauche. Alors pour lui, c'était une bataille, et le ménestrel entonnait un chant de victoire. Mais c'est pas possible. On voit très bien que l'ordre est inverse. Donc, à mon avis, cette affaire est bouclée, c'est définitivement le prologue de l'histoire de Rostam. Bien. Alors, partant de la même méthode, ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai trouvées dans les derniers jours. Voilà. J'ai déjà fait un article qui va paraître en avril pour annoncer ça. Il se trouve que J'ai tenté d'appliquer la même méthode à un autre cycle de peinture qui est connu d'Oppenjikent. C'est un des premiers qu'on a trouvé. Il a été trouvé dans les fouilles en 51-52. Marchak l'a commenté assez en détail, mais il n'a pas pu proposer d'interprétation dans les textes, parce qu'il n'a pas trouvé de texte qui lui semblait correspondre. Mais il a compris qu'il y avait une logique interne. C'est que c'est une bataille entre des seigneurs qu'il appelle les seigneurs des anneaux et les autres qu'il appelle les seigneurs des dragons. Pourquoi ? Et là, il a certainement raison. Voilà le roi des seigneurs des dragons. Vous voyez, il a son épée et sa dague ont des poignées en forme de dragon. Alors que les autres, on ne voit pas très bien partout, mais leurs poignées, ce sont des anneaux. Et non seulement les rois ont des épées comme ça, mais leurs hommes aussi. Donc on voit très bien que ça les identifie. Alors il se trouve, si vous voulez avoir une bonne idée de ce à quoi ressemble cette épée, voilà une copie moderne. Voilà. Alors il se trouve que c'est la copie qui a été faite pour ma réception à l'Académie. Quand on a commandé la copie, on a cherché évidemment ce qu'il y avait de plus pittoresque dans les épées sogdiennes. On a copié sur cette image. Et je ne savais pas à l'époque que j'avais pris l'épée des méchants. Voilà. C'est le camp des méchants. Bien. Malheureusement, sur cette peinture, la documentation visuelle n'est pas absolument idéale parce que quand elle a été trouvée donc en 50-51, c'était vraiment parmi les tout premiers cycles épiques qu'on trouvait à Oppenjikent. Les techniques de restauration n'étaient pas au point, donc ils ont publié avec des aquarelles méritoires pour l'époque, mais pas complètement exactes. Et les dessins qui ont été publiés après sont en fait faits d'après les aquarelles. Voilà. Aujourd'hui, en fait, les originaux ont été finalement remontés, sont au musée de Dushanbe, mais en 70 ans, ils se sont quand même abîmés, et surtout, je suis quasiment persuadé qu'il y a eu des repeints. La restauration a fait des retouches et qui ne sont pas toujours heureuses. Donc, il faut prendre avec ce qu'on a. On va commencer par lire, littéralement, d'après Marchak, la logique interne du récit, avant de proposer des noms. Bon. Je ne lis que ce que Marchak lisait, c'est-à-dire le registre inférieur. J'ai depuis découvert qu'en fait, ça commence au registre supérieur. Que se passe-t-il ? Ça commence ici, c'est clairement le début du registre inférieur parce que ça commence à une porte. Alors, on voit le roi ici. Vous voyez, sa couronne. Bon, c'est le roi des anneaux. Alors, je vous dis tout de suite, c'est les gentils. Les méchants, c'est les dragons. Bon. C'est le roi des anneaux. Il a son farn, la petite bête là, qui lui apporte la grâce divine. En l'occurrence, c'est un faisan. Bien. Et un chevalier, à genoux devant lui, donc en signe de respect, montre du doigt quelque chose. C'est un chameau. Et on ne sait pas bien s'il y a quelque chose sur ce chameau. À mon avis, il n'y a rien. Voilà. Et ce chameau regarde en arrière. Il vient d'ailleurs. Bien. Sur les premières aquarelles publiées, ils n'avaient pas reconnu le chameau. C'est Marchak qui l'a après reconnu. Ça se passe, le roi ici est furieux. Il est furieux de ce qu'il voit. Alors, il peut être furieux de voir le chameau, et il peut être furieux aussi de ce qu'il voit dans sa coupe. Parce que sa coupe, il la renverse violemment. Bien. Et cette scène se déroule à l'occasion d'un banquet Et ce banquet, on nous dit très bien quand est-ce que ça se passe, c'est au Nowruz, au Nouvel An zoroastrien, qui est au printemps, parce que ce personnage tient une branche avec des fleurs. En général, on dit même, enfin, c'est probablement des genêts, c'est ce qu'on tiendrait à la fête des morts qui est juste avant le Nowruz. Donc on a quand même un certain nombre de choses, d'indices. Hein. Bon. Ici, on a un changement de décor, un autre roi, mais qui est le roi des dragons. Il a lui-même son farn, alors ça n'avait pas été compris là, on sait maintenant que c'est un chameau. Il n'est pas dans un palais, il semble plutôt qu'il est dans un camp, parce qu'il est sur un siège pliant, vous voyez. Bon. Alors, il se trouve que Marchak a quand même décrit ce qu'il y avait au-dessus. Il pensait que ça n'avait pas de rapport, ou que c'était la suite. On ne voit pas grand-chose au-dessus, mais on voit quand même qu'il y a l'air d'avoir une réception royale, il y a des soldats, des guerriers qui sont morts, et vous voyez ici, il y a des mains qui pendent. Un personnage est suspendu tête en bas. Voilà. Ça, c'est la clé. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Alors, retournons en bas. Ça se déroule donc de droite à gauche. Voilà, ça, c'est la scène. C'est le banquet. Vous voyez là, très clairement, les fleurs dans la main du... Puis c'est un dialogue animé, puisqu'il montre son visage, on va dire. Il y a certainement un texte qui va avec ça. Bon. Et ensuite, se passe une bataille, je ne vous la montre pas. Alors, ça se passe entre les guerriers des anneaux et les guerriers des dragons. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les guerriers des anneaux ont une épée particulière et les guerriers des dragons ont donc leur épée particulière et en plus, les armures ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les anneaux, les seigneurs des anneaux, ont des armures en plaques, festonnées, vous voyez, et les guerriers des dragons ont des armures en plaques rectangulaires. En fait, les deux types existaient dans l'armement centra-asiatique, mais on a appliqué un type d'armure à un camp et l'autre type d'armure à l'autre. Bien. Alors, suite à la bataille, bon ça n'a rien à voir, en fait, il y avait une image de divinité ici, et donc encadrée par une arche, avec ici la figure d'une harpiste. En fait, c'est une image d'image, c'est-à-dire qu'on a représenté ce qui était, c'est pas une vraie harpiste, c'est... Une sculpture de bois qui représentait une harpiste soutenant la niche où se trouvait l'image d'une divinité. Alors, on voit ici, c'est assez clair la logique, on voit le roi des anneaux, alors ici dans la tête, sur le casque, il y a des petites ailes, c'est certainement le même. C'est le même que celui-là. Simplement, la couronne a un peu changé. Elle est un peu plus petite parce que sur un casque, quand on est à la guerre, on va prendre un modèle de couronne moins encombrant. Voilà. Donc, il a une couronne plus petite. Mais on a supposé parfois que c'était pas le même roi. Mais moi, je vois pas pour comment il pourrait y avoir deux rois différents comme roi des anneaux. Alors, il est en combat singulier. C'est la fin du combat, et il tue avec une flèche, ouais, ça rentre dans la gorge là, celui-là il n'en a plus pour longtemps, un seigneur des dragons, qui n'est pas royal, qui est plus jeune, voilà, et qui est accompagné, qui a un compagnon. Bon, alors après il y a encore une autre scène de bataille. Alors, Marchak a bien commenté, enfin, il n'a pas pu identifier les personnages, mais il a bien commenté, voilà la scène, vous voyez, ce personnage, assez jeune, il n'a pas de barbe, il a un compagnon, ils ont les armures en plaque rectangulaire, et lui, il a l'armure en plaque festonnée, voilà, et c'est le roi. On voit des bouts de couronne, c'est le roi des anneaux. Alors, en fait, Marchak a bien commenté le combat. C'est la dernière phase du combat à pied. C'est-à-dire, ils ont essayé toutes les armes. Voilà. On voit par terre, ici il y a une hache qui est cassée, c'est vraiment tout à voilà, la hache qui est cassée, on voit d'autres armes qui sont jetées par terre, et ce type de combat final est représenté par un Plasogdien qui est connu depuis longtemps, qui est à l'Ermitage. Et vous voyez, c'est un peu la même chose. Bon, c'est pas les seigneurs des anneaux contre les seigneurs des dragons, puisque les armures sont identiques. Mais ouais, ils se sont battus à la hache. Les haches sont par terre, elles sont cassées. Ils se sont battus à la massue. Ils doivent pas être en bon état, là. Ils se sont battus à la massue, les massues sont cassées. Ils se sont battus à l'épée, les épées sont cassées. Alors finalement, ça se termine. Lui tire une flèche et c'est celui-là qui gagne, en fait, parce qu'il a une lance, il est en train d'embrocher l'autre. Bien. Alors ça se trouve beaucoup dans les épopées. Parfois ça se termine au corps à corps, hein. Vous avez qu'à lire dans la légende des siècles le combat entre Olivier et Roland, c'est exactement pareil. Voilà déjà longtemps que leurs chevaux sont morts, ils ont essayé à cheval, les chevaux sont morts, ils se sont battus avec tout, ils finissent par se taper sur la figure, et puis à un moment, ne vaudrait-il pas mieux que nous devinssions frères Roland épouse la sœur d'Olivier et ils deviennent copains. Bon, là ça se termine mal. Hein, et celui-là il est mort. Voilà. Ensuite, il y a la prise d'une ville. Alors, c'est pas seulement une tour, hein, parce que on voit ici il y a un élément de mur. Donc c'est la porte d'une ville. C'est les seigneurs des anneaux qui sont vainqueurs. Un jeune homme les introduit dans la ville et on voit un bœuf qui sort. Hein? Mystérieux. Alors, je m'étais dit depuis le début, en fait, que ça rappelle quand même beaucoup un épisode du Livre des Rois qui intervient plus tard que la guerre du Mazenderan que j'ai présentée. C'est-à-dire la guerre du Mazenderan, c'est au début du règne du roi Kaous, et là c'est à la fin du règne de Kaous. Kaous est vieux. Et en fait, il a pratiquement laissé le trône à son petit-fils, Khosrow. Bien. Et quelle est l'histoire? C'est l'histoire de Bijan et Manigé. Alors, Bijan est un seigneur, un jeune chevalier de la cour de Khosrow. Et il est chargé de débarrasser le pays, la frontière, de sangliers qui le ravagent. Et il part avec un vieux chevalier qui est son mentor, enfin celui qui est chargé de veiller sur lui. Mais il se trouve que ce chevalier est jaloux de lui, parce que Bijan est en train de monter à la cour, et donc ça commence à faire de l'ombre au fils de ce chevalier. Donc il a décidé de le perdre. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Bon, Bijan n'est pas très futé, son précepteur lui dit, mais profitons de l'occasion, on est à la frontière, il y a des filles du Touran, donc le pays voisin de l'Iran, enfin à l'est disons, qui sont là dans la prairie, on va les kidnapper. Bien. Donc ils vont rafler les filles. Mais que se passe-t-il? Parmi les filles, il y a la fille du roi Afrasiab, qui est, je vous dis tout de suite, donc à mon avis, Khosrow, c'est lui, c'est le roi des Iraniens, et là, Afrasiab, c'est le roi des Touraniens. Il y a toujours cette opposition dans l'épopée iranienne, l'Iran, et puis au-delà de la Moudaria, disons, voilà, les pays de l'Est, c'est le Touran. Alors après, au Moyen-Âge, déjà à l'époque de Firdousi, on a fait une étymologie fausse. On a trouvé dans le mot Touran le nom des Turcs, qui étaient évidemment, qui étaient à ce moment-là l'ennemi héréditaire à l'Est. Au départ, ça ne veut pas dire ça. Bien. Alors, il va rafler, donc il tombe sur la fille d'Afrasiab, qui tombe amoureuse de lui. Et comme elle n'est pas plus maligne que lui, elle l'invite à passer la nuit dans le palais de son père. Donc, elle le met dans la gueule du loup. Là, le pauvre Bijan est démasqué et il est condamné. Finalement, on décide de ne pas le tuer. On le jette dans un puits après l'avoir enchaîné. Mais avant de le jeter dans un, au moment où on le jette dans le puits, on le jette tête la première. Alors, je vous cite la traduction de Pierre Lecoq. C'est Afrasiab qui donne les ordres, donc. Jette-le dans un cachot dont on ne sort pas. Des chaînes au bras, un carcan au front, un câble de Byzance qui supporterait un pont, le tout fixé avec des rivets très lourds. Enroule son corps en faisant plusieurs tours, jette-le cul par-dessus tête dans le cachot. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris. C'est le début de l'histoire. C'est Bijan qui est en train d'être jeté tête la première en prison. Voilà. Et alors, il y a des détails qui devaient probablement être dans la scène qui suivait, c'est que la pauvre Manigée, donc la traîtresse, est traînée par les cheveux, battue, et elle est condamnée à mendier près du puits où le pauvre Bijan végète, pour lui assurer son pain quotidien. Ça dure 7 ans. Hein. Ça dure 7 ans. Il faut vraiment qu'elle l'aime. Bon. Et finalement, au bout de 7 ans, Rostam vient délivrer Bijan. Bien. Alors, suite de l'histoire. Suite de l'histoire. Alors, dans le livre des rois, le cheval de Bijan revient tout seul, sans cavalier. Le père de Bijan, qui s'appelle Gev, qui est un des grands nobles de la cour de Khosrow, comprend que son fils a disparu chez l'ennemi. Et il va donc rapporter la situation à Khosrow. Khosrow, quelques temps après, comme tous les ans, regarde, au moment du Nowruz, du Nouvel An, regarde dans sa coupe magique. Et sa coupe magique lui montre ce qui se passe dans le monde. Et que voit-il dans sa coupe magique? Il voit Bijan en train de végéter dans le fond de son puits. Et alors, voilà. Il y a deux détails qui ne sont pas dans le livre des rois, mais ils sont pas fondamentaux dans la structure du récit. Il y a ici l'animal qui, en fait, dont l'arrivée annonce le triste sort de Bijan, n'est pas un cheval, c'est un chameau. Mais c'est assez logique. Parce que ça s'est passé au Touran, en Asie centrale. Donc c'est assez normal que, on peut supposer que dans la version qui circulait localement, Bijan en fait avait monté un chameau. Bien. Et par ailleurs, il n'est pas dit que Khosrow, furieux, a jeté sa coupe. Mais, il y a un rapport avec la coupe. Et en plus, ce qui indique quand même que c'est cet épisode, c'est que ça se passe au Nowruz, au Nouvel An, et voilà des personnages qui festoient au Nowruz. Bon, à mon avis, le doute n'est pas permis. Alors donc voilà donc Khosrow, voilà Afrasiab, roi des dragons, donc l'ennemi, comme si ça suffisait pas, quand Afrasiab est tué, longtemps après, dans la suite de la guerre qu'a déclenché contre lui Khosrow proclame au monde, il proclame, la terre est enfin débarrassée du dragon. Bien. Voilà. Alors, suite de l'histoire. Donc, là, alors là, j'ai mis, donc, oui, c'est ça. Donc là, le seigneur des dragons, Afrasiab, roi du Touran, le seigneur des anneaux, Kekroslo, roi d'Iran, Bijan suspendu tête en bas, et là, voilà, Khosrow, Gif, père de Bijan, montre le chameau vide revenu du Touran, Khosrow furieux de ce qu'il a vu dans la coupe, Afrasiab, roi du Touran. Et là, on a ce combat, je vous ai donc parlé tout à l'heure, ce combat singulier qui avait posé un problème à Marchak. Pourquoi ? Parce que lui est un roi et lui ne l'est pas. Or, un roi ne combat pas à pied. Ça, c'est pour les subalternes. Et par ailleurs, un roi ne combat qu'un égal. Un roi ne combat qu'un roi. Un roi ne va pas combattre un chevalier. Mais il se trouve que dans la guerre qui suit l'épisode de Bijan, on nous raconte que Sheda, fils d'Afrasiab, a provoqué en duel le roi Khosrow. Et il l'a provoqué en duel à pied. Et il y a un grand débat entre Khosrow et ses courtisans. Est-ce que je dois accepter ce combat qui, en principe, n'est pas digne de moi ? Parce que je vais combattre quelqu'un qui n'est pas un roi, et par ailleurs, je vais le combattre à pied. Et finalement, après de longs débats, on décide que Khosrow va y aller, parce que c'est le seul moyen de se débarrasser de ce prince et de tirer vengeance sur son père, Afrasiab, qui a infligé ce triste sort à Bijan. Donc, à mon avis, c'est ça. Bien. Et en plus, dans le livre, on voit que ce noble donc, des dragons a un compagnon derrière lui, bon, qui ne se bat pas directement, mais vous voyez, il tient une massue. Il a un compagnon. Dans le livre des rois aussi, Sheda, le prince touranien, a un compagnon de combat qu'on appelle son interprète et qui après supplie Khosrow de lui laisser la vie sauve. Donc, on a quand même vraiment, vraiment des coïncidences importantes. Alors, maintenant, ça devient un peu plus compliqué. Il y a la prise de cette ville. Bien. Par les seigneurs des anneaux. Donc, les seigneurs des anneaux, qui sont les Iraniens, les seigneurs des dragons, qui sont les Touraniens. Prise de cette ville. En principe, la capitale, la forteresse principale d'Afrasiab, c'est Gang, qui s'appelle parfois Gangé dans les sources plus anciennes. Ça se trouve quelque part à l'est, sur une montagne. Alors, plus tard, on l'a identifié à Samarcande, parce que le nom chinois du royaume de Samarcande, c'était Kang. Et donc, on a identifié Gang à Samarcande, et dans les légendes locales de Samarcande, ça a attiré un certain nombre de motifs qui étaient liés à Gang. On voit que la ville est prise, peut-être par traîtrise, mais ça, c'est pas dans le texte de Firdousi, un jeune homme qui ouvre. Alors, on s'interroge sur la présence de ce taureau qui est ici, dans la porte. Alors, Marchak avait une idée très très astucieuse, mais fondée sur une lecture fausse. C'est que, à l'époque, donc, il n'avait pas compris que lui était Afrasiab. Il pensait que le farn du seigneur des dragons était un taureau. Voilà, ça avait été mal dessiné. Et du coup, il a dit, c'est très clair. C'est la baraka du seigneur des dragons qui est en train de l'abandonner. Sauf que c'est pas un taureau, c'est un chameau qui évidemment fait écho au chameau. D'une part, au fait que le Touran c'est l'Asie centrale et au fait que c'est un chameau qui vient en fait annoncer la captivité de Bijan. Voilà, il y a un rapport. Alors, qu'est-ce que vient faire ici ce taureau ? Bon, moi, j'ai une idée, mais elle est très, très hypothétique. Dans le Livre des Rois, quand on nous parle de la prise de Gang, on nous dit, mais à l'intérieur de cette forteresse, c'est un vrai paradis agricole, tout pousse, il y a des bassins partout, c'est un pays de cocagne. Donc, comment symboliser un riche domaine agricole, on va pas représenter trois épis de blé, c'est quand même peut-être plus éloquent en montrant une vache. Voilà, c'est mon hypothèse. Bien. Voilà, donc, voilà ce que je pense pouvoir dire sur ce cycle. Et alors, ça nous, ça nous récupère au Livre des Rois un ensemble de peintures de Penji Kent qui, jusqu'à présent, restait un peu orphelin. Hein. Évidemment, c'est plus si mon hypothèse est acceptée, je ne sais pas si elle la sera, puisque mon hypothèse est à 4 jours. Vous en avez la primeur et elle sera publiée en avril. Peut-être que tout le monde va me tomber dessus, mais j'aurais aimé que Marchak soit encore en vie parce que si lui j'avais réussi à le persuader, j'avais gagné. Mais c'était pas facile de le faire changer d'avis. Si mon hypothèse est validée, on récupère une deuxième histoire du Livre des Rois à Penji Kent, et je serai amené à reparler de ça après, quand on aura vu d'autres récits. Plus on avance, plus on voit que le Livre des Rois, il existait deux siècles, c'est une forme assez proche, il existait deux siècles avant que Firdousi ne l'immortalise en persan. Ce qui circulait en Asie centrale deux siècles avant, ça paraît quand même avoir été très proche. Bien. Alors, il reste un peu de temps. On va passer à un autre cycle de peinture qui est... c'est aussi à Penji Kent. Ça implique aussi Rostam. Mais c'est pareil, c'est resté mystérieux longtemps. Et puis finalement, Michael Schenker, en 2014, a débloqué la situation. Il a trouvé ce que c'était. Ça ne sort pas du Livre des Rois, ça sort d'une, ce qu'on appelle une petite épopée. Il y a eu des épopées, disons, périphériques au Livre des Rois, qui le copie plus ou moins et qui élabore des histoires à propos de héros qui n'ont pas une grande importance dans le Livre des Rois. C'est la même façon qu'a fonctionné l'épopée arthurienne. Après, ça fait des petits et les personnages de la table ronde finissent tous par avoir leur propre épopée. Alors, il se trouve que cette épopée, c'est le Faromarz Naomé, l'histoire de Faromarz. Faromarz, c'est un fils de Rostam. Alors, cette peinture a été trouvée assez tard, en 78-79, elle a été tout de suite... elle a causé la perplexité parce que on reconnaît Rostam. Vous allez le voir tout à l'heure, on le voit, il y est. Mais il n'est pas le héros principal. Voilà. Et par ailleurs, c'est pas dans le Shahnameh. Donc, Marchak avait déjà l'intuition que ça venait d'une épopée périphérique, et il avait, comme il y a une princesse, vous allez le voir, il a eu une idée astucieuse, c'est que Rostam avait deux filles, il y en a une, Zarban, Banu Gashasp, qui avait son propre cycle épique. Ces petites épopées sont assez inspirées du roman d'Alexandre. Bon. Et elle a une sœur dont on ne connaît que le nom, Zarbanu. Il s'est dit, peut-être Zarbanu avait aussi son épopée. Bien. Mais Michael Schenker a remis les choses en place. Il se trouve que le Faromarz Naomé, actuellement, on l'a sous forme de deux poèmes persans, un plus long, un plus court, de la fin du XIe siècle. Alors, ça se déroule en fait dans une Inde de fantaisie, comme d'ailleurs souvent ces petites épopées dont une partie de la trame narrative est empruntée au roman d'Alexandre. Par exemple, Faramarz, mais c'est pas sur la peinture, Faramarz a des dialogues avec les brahmanes. Ça vient du roman d'Alexandre. Hein. Il découvre des trésors. Pareil, ça vient du roman d'Alexandre. Alors, que voit-on ? Là, c'est clair, le registre supérieur, c'est le début, le registre inférieur, c'est la suite. Bien. Au registre supérieur, on voit des chevaliers, dont un... Alors, regardez la couleur de son cheval. Il a un cheval bai, comme Rostam. Mais il se trouve... C'est pas Rostam, c'est son fils Faramarz. On identifie le lien entre eux par le fait qu'ils ont des chevaux de la même race. Alors, il y a une bataille et les vaincus, bon, c'est pas très très clair ici, mais voilà des personnages demi-nus qui sont là, il y a un mort, et là, celui-là, il est à moitié monstrueux, c'est à moitié un ours. Donc, on voit que ça se passe dans un pays, bon, en gros, où il fait chaud, puisque les guerriers sont nus, et qui se trouve aux extrémités du monde. Les extrémités du monde, c'est là où il y a des monstres. Donc, c'est une Inde de fantaisie. Bien. Alors, au registre inférieur, alors voilà, précisément, le héros monté sur son cheval bai. Et là, celui-là, il est tout contorsionné, là, il a un corps monstrueux. Et au registre inférieur, on voit, ça se déroule de droite à gauche, une princesse, une jeune fille, à cheval, qui en fait est enlevée, mais plus ou moins avec son consentement, par un démon. Alors, le démon tient la bride de son cheval, vous voyez. Et ce qui indique que la jeune fille est sous le pouvoir du démon, c'est qu'elle a un halo comme lui. Alors, le symbole du halo dans la peinture sogdienne, ça indique un pouvoir surnaturel, mais pas forcément bon. Ça peut être un pouvoir maléfique. Et ici, la fille est, on dirait aujourd'hui, sous emprise. Non. Et puis après, quand elle ne va plus être sous emprise, elle ne va plus avoir le halo. Non. Alors, le démon... est un démon qui a trois têtes. Bon, on ne voit pas très bien ici, mais il a trois têtes. Il tient un trident et il est dans un char attelé par des sangliers. Bon, une monture pas habituelle. Alors, il ressemble en fait assez... Bon, hein, c'est les photos qu'on a. Voilà, il a quatre bras. Bon, voilà. Il ressemble assez, voilà, trois têtes, quatre bras, un trident. Il est en fait copié sur un dieu qu'on a déjà eu l'occasion de voir, Weshparkar, un des grands dieux des Sogdiens, qui en fait était une version sogdienne de Shiva. Ben, mais c'est pas Weshparkar, parce que il meurt dans le récit. Donc ça peut pas être un dieu. C'est une façon de montrer, en utilisant l'image familière de ce Shiva que les Sogdiens connaissaient, que ce démon, il est indien. Voilà. Alors, dans le récit persan, le Faramarz d'armée, il est décrit, mais d'une autre manière. Ça, c'est destiné au public sogdien. Voilà. Il est comme les dieux indiens auxquels vous êtes habitués. Bien. Alors, en fait, dans... Qu'est-ce qu'on trouve dans le récit ? C'est qu'effectivement, la fille du roi de Kahila, elle n'a pas de nom, hein, la fille du roi de Kahila, qui est une île de l'Inde, a été enlevée par un démon, qui d'ailleurs n'est pas nommé. Épisode suivant. Un héros qui n'est pas Rostam, parce qu'il n'a pas la peau de panthère, mais qui a le cheval bai, hein, affronte ce démon. Alors on voit très bien les sangliers, vous voyez. Finalement, il le tue. Regardez là, il lui a ouvert le ventre. Il lui a ouvert le ventre, on lui voit les tripes qui sortent. Le démon est mal en point. Donc, alors, dans le récit, c'est le fils de Rostam, c'est Faramarz, qui tue le démon pour délivrer la princesse. Et ben voilà la suite. Voilà Faramarz à genoux, la princesse derrière lui, et ils font leur rapport, ils racontent leur histoire à Rostam, le papa, qui arrive. Alors lui, on sait que c'est Rostam, parce qu'il a, il a sa jupe en peau de panthère, avec des points. Donc c'est Rostam. Et ça se passe sans doute, là il y a une montagne, donc peut-être ça se passe à la frontière entre l'Inde et l'Iran. Voilà, comme Rostam est roi du Sistan, région à la frontalière entre l'Inde et l'Iran, ça collerait assez bien. Épisode final. Ils arrivent chez le roi. Alors voilà le prince, Faramarz, à genoux, en signe de respect, la jeune princesse. Évidemment, elle est représentée plus petite que lui. Rostam, le papa, derrière, avec sa peau de panthère. Et ils sont devant le roi. Alors, ce roi, bon, il n'a pas de couronne particulière. Mais alors on voit que, voilà, ça se passe, c'est une campagne militaire, hein, les serviteurs tiennent des boucliers, il est assis sur des gros coussins, et son trône est porté par des éléphants. C'est-à-dire que le roi, ce roi, en fait, c'est, on voit dans le texte persan, c'est Khosro, qu'on a déjà rencontré. Hein, dans d'autres aventures, c'est le roi Khosrow, au nom de qui est conduite la campagne en Inde. C'est Rostam et son fils qui ont mené la campagne, mais c'est en son nom qu'est conduite la campagne, donc c'est à lui qu'il faut faire le rapport. Les gestes des mains très animés, alors il y a probablement des codes précis avec les doigts et mimiques des mains, on n'a pas tout à fait les clés, mais enfin, on voit qu'il y a une conversation animée. De quoi discute-t-il ? Bah, sans doute du projet de mariage entre les deux tourtereaux, évidemment. Et par ailleurs, sans doute, ça c'est dans le poème, Faramarz reçoit en fait du roi le gouvernorat, l'apanage des pays qu'il a conquis en Inde. Voilà. Alors, tous ces détails, trouvés par Michael Schenker, sont conformes au poème et notamment à sa version longue. Ce qui oblige à une considérable révision des conceptions sur la chronologie et la diffusion des épopées iraniennes. Parce que jusqu'alors, il était unanimement admis que toutes ces petites épopées étaient en dépendance par rapport au Livre des Rois, rédigé vers l'an 1000, et notamment le Faramarznamé, bon, le poème qu'on a, il est de la fin du XIe siècle, en fait, ça a dû être inspiré par les conquêtes des sultans ghaznévides, des sultans ghaznévides en Inde. Eh ben non, on voit maintenant que ce poème persan du XIe siècle, c'est un rifacimento d'un récit pré-islamique qui pouvait être écrit, qui pouvait être oral. Voilà. On a un autre indice, c'est qu'un petit peu avant, au 7e siècle, en Bactriane, on a un personnage qui s'appelle Faramarz. Donc, voilà, on sait maintenant que ces épopées annexes circulaient aussi. Bien. Eh bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous donc dans un mois.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.